l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Aurignac, 94.1.
Et les jours s'enchaînent et on est toujours un grand plaisir de vous retrouver, chers auditeurs, pour ce Présence Midi. C'est un vrai bonheur. Hier, nous étions en direct depuis la Ciergerie lourdaise. Et aujourd'hui, au programme de ce Présence Midi, c'est dans quelques instants, on ira voir le quotidien d'une ferme et d'un agriculteur dans le rural, puisque c'est la ferme Labatte où Benoît Guillard a été installé son micro. Vous verrez le quotidien d'une ferme dans le rural. Et puis, Pauline Cazier, eh bien, elle nous fera découvrir le samedi 8 novembre, à Auch, a eu lieu la deuxième édition d'un forum, le Forum des métiers de l'uniforme. Alors étaient présents la gendarmerie, la police, l'armée de terre et de l'air, ainsi que les pompiers. Ils étaient là pour présenter leurs nombreuses possibilités de recrutement. Mais aussi, il y avait le Bleuet de France qui fête cette année leur centième anniversaire. On écoutera Julie David, elle est directrice de cabinet du préfet du Gers, et Olivier Dupont, c'est le directeur de l'ONAC, l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Pauline Cazier, donc, nous fera découvrir ce beau forum qui a eu lieu donc le 8 novembre dernier à Auch. Et puis on parlera d'une enquête policière, puisqu'on va partir en Vallée d'Or, au cœur des Pyrénées, avec le dernier livre de Philippe Pourcet, qui sera donc l'invité de Un jour, un livre, un auteur. Mais pour cela, nous allons maintenant partir en Vallée d'Or découvrir un agriculteur pas comme les autres.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Cette semaine, j'ai fait le choix de me rendre dans un territoire peu fréquenté, mais connu quand même, que sont les Baronnies. Les Baronnies, pour ceux qui ne connaissent pas cette belle région, elle se situe à la limite de Bagnères-du-Bigorre, et elle s'étend pratiquement jusqu'à la vallée des Nestes, et pour le nord, jusqu'à la zone de Tournai, Lannemezan. Voilà, c'est un territoire montagneux, donc avec une population à faible densité, principalement agricole, et je me suis rendu dans un petit village qui s'appelle Ask. Alors, pour ceux qui se baladent dans la montagne ou dans le Piémont et qui vont voir les choses remarquables, à Ask, vous connaissez les gourgues d'Ask. Je ne suis pas aux gourgues, je suis dans le village d'Ask, et je me suis rendu dans une exploitation agricole que je trouve remarquable dans son histoire, et donc mon idée un petit peu dans cette belle région des Baronnies, c'est de vous raconter l'histoire de cette famille, puisque je suis chez Philippe, Loïc et Pascal Labatte à Ask. Et donc je vais commencer par Philippe, peut-être vous laisser vous présenter et puis expliquer un petit peu l'exploitation agricole ici, un petit peu son histoire, et puis aussi les Baronnies pour les auditeurs qui connaissent peut-être pas obligatoirement ce territoire. Donc bonjour Philippe.
Bonjour, je me suis installé en 1995, j'ai toujours connu une ferme à la maison de Labatte. Mon grand-père d'abord, puis mon père qui était gendre dans la maison, qui n'a pas toujours pu faire évoluer la ferme comme il aurait voulu. Et donc en 1995, après avoir travaillé 10 ans à l'extérieur, j'ai pris la succession et j'ai fait les investissements qu'il fallait faire, qui étaient les plus pressés.
Philippe, on va peut-être décrire un tout petit peu le type de production que vous menez, un petit peu l'histoire justement de ces productions et le développement que vous avez mis en place.
Quand j'ai repris la ferme, il y avait 26 vaches mères. J'ai créé un bâtiment et je me suis lancé assez rapidement dans la vente directe, dans la transformation de veau. Puis la salle des coupes de Lourdes s'est mise en place et on a travaillé avec Lourdes et beaucoup de... Et le bouche à oreille nous a bien aidé à développer la vente.
Alors si je comprends bien, au départ, votre projet c'était quand même d'essayer de gagner un peu plus votre vie en transformant la viande, hein, tout simplement, et non pas en vendant à des structures qui rachètent votre viande. Et puis essayer de tourner sur des outils qui étaient des outils locaux, puisque c'était Bagnères principalement.
Oui, l'abattoir était à Bagnères, et oui, il fallait à tout prix, avec le peu de cheptel qu'on avait, il fallait à tout prix valoriser les ventes.
Au niveau du cheptel, justement, donc, vous aviez des races particulières, gasconne, blonde, charolaise, limousine, ou c'était pas très important pour vous ?
Au départ, quand j'ai repris, mon père avait déjà fait la sélection et était parti sur la blonde d'Aquitaine, oui, avec quelques laitières à côté pour l'engraissement des veaux.
Vous avez continué donc avec des blondes d'Aquitaine, du veau sous la mer et de l'engraissement ?
Oui, c'est tout à fait ça, oui. Les mâles sont toujours partis vers l'Italie et les femelles partaient à l'engraissement, étaient engraissées et débitées, vendues en direct.
Alors avec Philippe, avec la crise agricole aujourd'hui, avec tout ce qu'on entend autour de la viande, hein, sur les radios, les télévisions, avec votre histoire à vous, aujourd'hui, quel est votre regard justement sur ce marché de la viande et comment vous positionnez votre modèle, votre choix par rapport à cette crise ?
La production est toujours déficitaire, je l'ai toujours connue déficitaire. Malgré qu'aujourd'hui les cours soient un petit peu remontés, on travaille toujours en dessous des coûts de production.
Et alors pour vivre, comment on fait quand on travaille en dessous des coûts de production ? Bon, il y a la PAC, certes. Puis après, il faut se battre.
Oui, la PAC, c'est indispensable. Sans la PAC, aucune production ici en montagne ne serait possible. Quoi.
Et alors aujourd'hui, puisqu'on parle d'abattage, donc vous abattiez à Bagnères. Bon, l'abattoir aujourd'hui, on en connaît son avenir, hein, malheureusement. Et aujourd'hui, comment vous faites ?
L'avenir, il est peut-être pas si noir que ça. Il y a une association qui s'occupe quand même d'essayer de relancer l'abattage, sachant qu'on peut pas tuer, qu'on ne peut pas abattre nos vins sur les Hautes-Pyrénées. Et la découpe nous manque énormément aussi. Bon, il faut quand même essayer de rester positif. Et
vous faites partie de ceux qui défendaient le fait de pouvoir continuer à gérer cet abattoir, cet outil qui est important pour le territoire et qui est important pour vous en tout cas.
Oui, pour nous, pour toute la filière ovine. Bon, Loïc s'est investi dans l'association et il faut garder espoir.
Alors si on prend un peu de recul et qu'on regarde un petit peu depuis que vous êtes installé jusqu'à ce jour, bon, maintenant vous a rejoint Loïc, votre fils. Donc il a fallu envisager la transmission, ou au moins l'accueil du fils. D'abord aujourd'hui, comment vous voyez l'arrivée de votre fils ? Et puis ensuite, comment vous avez finalement réfléchi ensemble ? Au retour du fils à la ferme.
L'arrivée du fils a été possible parce qu'un jeune agriculteur plus réactif a voulu arrêter la production et donc a proposé à Loïc de reprendre toutes les terres, de s'installer. Donc c'était l'opportunité à saisir, ça allait peut-être pas se reproduire deux fois. Donc après il y avait la place et puis quand on monte en âge, l'intérêt c'est qu'il y ait quelqu'un derrière, hein. Sinon on a travaillé pour rien.
Donc c'est quand même quelque chose de plein d'espoir pour vous de savoir que ben, le fils il est revenu, il est là. Et donc il va continuer lui à mettre en valeur la maison Labatte à Ascq, hein, depuis longtemps. Hein. C'est quand même, pour vous c'est quand même quelque chose d'important pour vous et pour votre femme.
Bien sûr que c'est important, c'est toujours important pour une ferme qu'elle continue à fonctionner.
Alors aujourd'hui on parle beaucoup sur notre territoire du devenir de l'agriculture et bon, on est en pleine période d'élection puisque ce sont les élections à la Chambre d'agriculture, hein, et on voit que c'est des moments tendus dans nos campagnes, on voit que la pression est en place et que les visions sont différentes entre les différents syndicats dans le contexte. pour ce territoire un petit peu des baronnies, un territoire polyculture élevage, petite production, qu'est-ce que vous souhaitez sur l'avenir ?
Ça se développe encore, il y a toujours des possibilités de développer les ventes, c'est compliqué de coordonner quelque chose, de travailler à plusieurs. Par exemple, si quelque chose s'était mis en place au niveau de l'élevage ovin sur la vallée de Campan, l'abattoir de Bagnères n'aurait jamais fermé. Comme l'abattoir de la vallée des Gaves s'est reconstruit après la tempête, grâce au barrage Gavarnie.
Donc c'est toujours la même difficulté, c'est de travailler ensemble, se projeter ensemble et vivre ensemble, quoi, hein. C'est le problème de ce monde depuis bien longtemps, hein, dans le contexte. Et alors pour terminer justement sur cette exploitation agricole et sur votre vision, aujourd'hui il faut tirer le revenu pour deux familles. Et donc à un moment donné, vous avez dû faire un choix, monsieur et madame, mari et femme, par rapport à l'exploitation, puisque votre épouse Pascale est revenue sur l'exploitation.
Oui, oui, par rapport à la transformation, ça nous donnait beaucoup de travail et là il fallait nous soulager un peu, et elle a souhaité revenir sur l'exploitation. Bon, elle y a trouvé sa place, je pense, ou elle est en train de se la faire, je ne sais pas. Voilà.
Une dernière question sur la vision par rapport à, puisqu'aujourd'hui le contexte aussi c'est un contexte souvent développement durable, environnement, écologie. Bon, ici, l'écologie, vous en faites plus toujours, on va dire, hein. C'est pas ici qu'on fait autre chose. Vous faites pratiquement du bio sans le savoir, entre guillemets. Mais c'est quoi votre vision par rapport à tout ça, le regard que vous avez par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui s'entend autour du monde agricole et de l'environnement ?
C'est vrai qu'ici, on ne se sent pas tellement concerné. On est en bio, comme vous dites. Si, on pourrait être en bio directement si ce n'était toutes les contraintes qui vont avec, les contrôles, tout ce qui... Ça serait un coût de production supplémentaire.
Alors aujourd'hui, vous êtes en vente directe pour l'essentiel ? Ou en partie ? En partie, donc ça veut dire qu'il faut développer une clientèle sur le territoire, et donc ça se passe comment on fait pour développer sa clientèle?
Bon, ça s'est fait du bouche à oreille. On est à 50% en bovin, 100% en porc, puisque Loïc s'est installé avec des porcs, et franchement on a arrêté les marchés. Ça se passe pas tout seul, mais presque, quoi. Oui.
C'est la preuve que quand on a des bons produits et qu'il est reconnu, on peut vendre. Et vendre mieux peut-être que sur les marchés classiques, ces produits. Hein. Philippe, on est à la fin de ce premier épisode. Là, je vais avoir une question un peu plus personnelle. Parce que, bon, bien évidemment, quand on a vécu, on est revenu à la maison, on a développé l'outil comme vous l'avez fait, et que vous voyez arriver votre fils et votre femme à la maison. C'est à la fois une fierté, mais c'est aussi des responsabilités supplémentaires. Comment vous le vivez ?
Des responsabilités supplémentaires, peut-être pas. Bon, après, chaque génération prend ses responsabilités. Ouais. Après, il faut souhaiter que ça perdure.
En tout cas, merci. On va, chers auditeurs, donc, je le rappelle, on est dans les baronnies, on est à Ascq, on est chez Philippe, Pascal et Loïc Labatte. Merci, Philippe. Merci pour votre accueil et à très vite.
Et un grand merci aussi à Benoît Guillard pour ce beau reportage dans cette ferme. On va partir dans le Gers dans un instant avec Pauline Cazier. On va parler d'un forum qui a eu lieu le 8 novembre dernier à Auch. C'était un forum des métiers de l'uniforme.
Présence à Aspe 94.1.
Au long cours, l'amour et la mer, l'écume de nos jours.
Présence à Belmont-sur-Anse, 93.1.
Samedi 8 novembre dernier à Auch a eu lieu la deuxième édition du Forum des métiers de l'uniforme. Gendarmerie, police, armée de terre et de l'air, pompiers étaient là pour présenter les nombreuses possibilités de recrutement, mais aussi le Bleuet de France qui fête cette année son 100e anniversaire. Je vous propose d'écouter l'interview de Julie David, c'est la directrice de cabinet du préfet du Gers, et Olivier Dupont, directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Ils sont tous les deux au micro de Pauline Cazier.
C'est la deuxième année que se tient ce forum des métiers en uniforme et on remercie encore le centre commercial Leclerc de nous accueillir. Donc sont représentées des forces armées qui viennent de l'extérieur du département, pour certaines de très loin, donc je les remercie également encore. La gendarmerie, la police, les pompiers, mais également le service des assistantes sociales aussi du corps des armées. Donc c'est vraiment intéressant pour nous d'avoir cette présentation, parce que autant effectivement les secours, les forces de l'ordre sont relativement bien connues et les citoyens peuvent les croiser au quotidien ou requérir leur appui au quotidien, autant c'est vrai que depuis de nombreuses années nous n'avons plus de régiment dans le Gers, donc c'est important aussi de présenter leur mission, leur matériel, l'évolution des différents métiers aussi pour ces hommes et ces femmes qui interviennent souvent au-delà de nos frontières et dont le travail peut-être méconnu. C'est aussi l'occasion, évidemment, il y a des stands de recrutement, hein, donc pour les personnes qui seraient intéressées de prendre des renseignements. Et cette année, nous avons voulu mettre un focus sur la mixité dans les métiers en uniforme pour essayer de casser ces a priori, parce qu'une fois que les femmes sont au sein de l'armée, au sein de la gendarmerie, des pompiers, etc., ça se passe très bien, il n'y a aucune difficulté, mais l'idée c'était surtout pour celles qui hésiteraient encore à passer le pas, qui disent non, c'est encore un métier d'homme, il y a cette connotation avec les contraintes, avec le côté opérationnel ou la nécessité d'avoir une force physique. Et c'est vraiment pour casser ces a priori, de dire que non, il n'y a aucune difficulté, pas plus que pour n'importe quel autre métier. Hein. Effectivement, dans les métiers de la grande distribution, dans les métiers de la restauration, dans les métiers médicaux, tous les métiers ont aussi des contraintes. C'est une question d'organisation et donc les métiers en uniforme n'ont pas plus de contraintes, ni plus ni moins que pour d'autres métiers. Donc c'est vraiment pour les inciter. Et donc à cette occasion, on a réalisé aussi des interviews des femmes qui sont présentes sur les différents stands pour pouvoir faire ensuite des clips et des petites capsules vidéo qui seront relayées sur nos réseaux sociaux.
Alors, une jeune femme qui veut se présenter, qui cherche à intégrer l'uniforme, vous lui expliquez qu'il y a plusieurs activités, en fait,
c'est très divers. C'est extrêmement diversifié, hein. Et encore là, on a des services qui ne sont pas représentés, comme la douane, comme l'Office français de la biodiversité, voilà. C'est vrai qu'il y a énormément de métiers en uniforme.
Aussi dans l'administratif, hein.
Bien sûr, hein, y a tout à fait. Il y a toujours un panel aussi administratif aussi dans les missions. Et donc, il y a le CIRFA qui tient des permanences à la caserne Lannes à Auch de manière régulière. Donc, ne pas hésiter à venir se renseigner, mais également à la gendarmerie chez les pompiers qui recherchent toujours évidemment des volontaires. Il y a également les jeunes sapeurs-pompiers qui peuvent permettre justement de commencer déjà des très jeunes finalement, des 15 ans, de pouvoir commencer à s'entraîner, à pouvoir participer à certaines petites missions et peut-être, pourquoi pas, se découvrir une vocation et ensuite dépasser les concours et intégrer donc la police, la gendarmerie ou l'armée.
Une dernière question, on voit depuis plusieurs années comme ça une recrudescence de la mixité, enfin, des femmes qui se présentent.
Alors évidemment, il y en a de plus en plus, mais ça reste encore insuffisant. Oui. Et pourtant, on voit bien, et tout le monde le reconnaît, la plupart des hommes reconnaissent que ça apporte un plus au sein des équipes, parce que ce n'est pas la même sensibilité, parce que c'est pas la même approche en termes de management, etc. Et donc finalement, cette mixité, elle apporte énormément. Donc évidemment, aujourd'hui, on est plus axé sur donner envie aux femmes, mais on a vocation aussi à faire d'autres actions où là, pour le coup, ça sera peut-être des métiers qui seront peut-être connotés très féminins et pour le coup, ça serait peut-être intéressant d'avoir aussi des hommes. Ça marche dans les deux sens. Hein. Voilà, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus.
Monsieur Dupont, vous êtes directeur de l'ONAVG. l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Alors, les combattants, voilà. Un petit peu de guerre.
Donc, on est là parce qu'il y a une date importante pour le bleuet de France.
Oui, le bleuet de France, oui, ben c'est une date importante puisque ça fait 100 ans. 100 ans que deux infirmières, des invalides, avaient été touchées par justement la détresse de ces anciens combattants de 14-18, notamment les blessés, les mutilés. Et l'idée aussi, c'était de comment les réinsérer dans la société, leur donner une activité professionnelle, gagner aussi un petit peu d'argent. À l'époque, on n'avait pas tous les systèmes de sécurité d'aujourd'hui. Donc ça fait 100 ans que ça dure et l'Office national des combattants a en charge cette mission, organisée au niveau du département, cette œuvre caritative, notamment auprès des communes, des associations. Et aujourd'hui, donc, grâce à la délégation militaire départementale, ça permet aussi de le mettre en lumière auprès du grand public. Voilà, de faire connaître un petit peu les missions. Puisque ça accompagne depuis 1914 tous les combattants. Et donc, ceux des 14, 39, 45, il y en a encore d'Algérie beaucoup, des veuves, des pupilles de la nation, et puis des soldats qui sont partis en OPEX aussi, et qui peuvent être amenés à être, qui sont projetés aujourd'hui, à être pourquoi pas blessés, malheureusement tués dans le cadre des conflits qui menacent.
Mais la collecte se fait à certains moments de l'année ou c'est...
Alors, il y a deux dates phares, c'est le 8 mai et le 11 novembre. Il y a également le 11 mars, c'est la journée dédiée aux victimes des actes du terrorisme, mais c'est plus prégnant dans des villes comme Nice, Paris, dont on va commémorer bientôt le 10e anniversaire du Bataclan. Il y a aussi le 14 juillet, mais des dates dans les départements ruraux comme les nôtres, c'est le 8 mai, et surtout le 11 novembre. Voilà. Où il y a la plus grande participation, notamment au niveau des cérémonies, et la visibilité, elle est plus importante pour les joueurs.
D'accord. Aujourd'hui, on est dans pour cette journée du métier de l'uniforme. Vous avez vu beaucoup de passages, beaucoup de gens qui s'interrogent sur le bleuet, peut-être les nouvelles générations.
Oui, bah alors déjà, ça commence par les collecteurs. Les collecteurs, vous l'avez vu, ce sont des jeunes, voilà, que l'on sont des cadets de la gendarmerie, des jeunes de la maison d'enfants Louise de Marillac, avec qui on travaille depuis de nombreuses années.
Alors, Louise de Marillac, il faut préciser pour ceux qui ne connaissent
maison,
pas.
Voilà, c'est une maison d'enfants à caractère social. Voilà, donc ce sont des jeunes souvent voilà, qui sont en difficulté au niveau familial, qui n'ont plus parents ou des parents qui ne peuvent plus s'occuper d'eux, qui dépendent de l'aide sociale à l'enfance. Donc des publics un petit peu isolés vers lesquels on va. Donc, avec notamment la délégation militaire départementale, bon, on va vers eux, on leur explique ce que c'est le bleuet, qu'est-ce que c'est être militaire, les valeurs de la République, les symboles, etc. Donc depuis de nombreuses années on y va, donc on touche les jeunes changent. Les cadets de la gendarmerie, celui du SNU aussi, les jeunes sapeurs-pompiers. Donc l'idée c'est d'associer la jeunesse, de sensibiliser. Et puis c'est vrai que quand c'est des jeunes voilà, qui viennent à la rencontre du public, c'est aussi. Ça marche mieux, hein. Il faut être honnête aussi, et puis nous, ça nous permet de transmettre. Voilà. Et ça fait plusieurs années que ça existe, et puis bon, dans ma vie perso, ben, je sais qu'il y a des gens voilà, qui me disent, ah, ben, voilà, ça faisait longtemps que, voilà, quand j'étais enfant, on en parlait, tout ça, maintenant, on a fait de revoir ça, mais ils sont très contents. C'est vrai qu'ici, nous, on n'a pas d'unité militaire, donc c'est vrai qu'en termes de visibilité, il faut agir autrement aussi, quoi.
Voilà, à l'instant, vous avez entendu Julie David, la directrice de cabinet du préfet du Gers, et ainsi que Olivier Dupont, le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, qui a été interrogé par Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers.
I get wings to fly.
La belle voix de Céline Dion à l'instant avec I'm Alive sur Présence. 12h pile poil, 12h30 minutes. On retrouve tout de suite le journal de la mi-journée qui nous est présenté par Kevin Mouveau de l'ISJT, l'Institut de supérieur du journalisme de Toulouse.
Radio Présence à Pau 96.
Un grand bonjour à vous, Kevin.
Bonjour à toutes et à tous. En Haute-Garonne, l'autoroute A64 est en chantier. Depuis le 24 novembre, sur la section entre Martres-Tolosane et Cazères, les voies de gauche sont neutralisées en semaine. L'objectif, installer une double glissière en béton sur le terre-plein central, plus robuste et sécurisée que les glissières métalliques actuelles. Ces travaux doivent durer jusqu'au 18 décembre, puis reprendre du 12 janvier au 13 février 2026. Pendant l'opération, le trafic repasse à deux voies le week-end pour minimiser la gêne. Toujours en Haute-Garonne, le Capitole de Toulouse retrouve presque toute sa splendeur. Après 11 mois de travaux et un investissement de 680 000 euros, la salle du conseil municipal a été entièrement rénovée. Vestiges ternis par le temps et le tabac, les tableaux ont été nettoyés, les dorures refaites, l'éclairage modernisé. Autre nouveauté, deux nouvelles œuvres d'art ornent désormais le plafond. Désormais restaurée, la salle est ouverte au public. Reste encore des travaux à engager. Jean-Luc Moudenc indique, 1 million d'euros supplémentaires restent à débloquer pour les travaux dans la salle Gervais et pour le grand escalier d'honneur. Dans le Tarn, l'association Pays de Cocagne a annoncé un soutien de 511 507 euros lors de son assemblée générale à Massac-Séran. Ce mécénat concerne des projets culturels et patrimoniaux dans le Tarnagout, avec notamment des subventions à des associations comme les Amis des Orgues de Lavor ou la Lyre de Lavor. L'association a aussi acquis des tableaux destinés au musée du Pays de Cocagne et prévoit des restaurations patrimoniales en partenariat avec la Fondation du Patrimoine. Restons dans le Tarn. Aux eaux des Trois-Vallées de Montredon-l'Abbé-Saunier, une partie des animaux a été évacuée ce mardi suite à une décision préfectorale. La préfecture du Tarn a ordonné cette évacuation le 16 décembre après un contrôle de l'Office français de la biodiversité, révélant des manquements graves dans des conditions de détention. Certaines espèces jugées dangereuses ou invasives ont dû être transférées de ce fait-là pour garantir leur bien-être et la sécurité publique. Dans le Lot, la 10e fête du livre et de l'image se tiendra à Arcambal les 29 et 30 novembre de 10h à 18h à l'espace culturel. Cette édition anniversaire met à l'honneur la peintre et écrivaine Marie Morel, invitée d'honneur. Elle peint des tableaux lumineux, d'autres un peu plus sombres, raconte-t-elle à Actulotte, sur un chemin bordé d'ombre et de lumière, comme l'est notre vie. Au programme, auteurs, illustrateurs, artisans du livre, mais aussi ateliers, lectures et démonstrations. L'entrée est libre, ouverte à tous, petits et grands. Dans le Gers, la préfecture organise le concours photo, le Gers sous tous les angles. Ouvert jusqu'au 12 décembre, il invite les habitants et photographes amateurs ou professionnels à capturer la richesse et la diversité du département. 8 clichés seront sélectionnés pour être exposés et valorisés dans les services de l'État. Une initiative pour mettre en lumière paysages, patrimoine et vie locale gersoise à travers l'objectif des participants, indique le site gouvernemental gersois. Enfin, en Aveyron, 2000 à voix, Lucas Dupont et Clara Martin brillent sur l'Irox de Bordeaux. Ils participent à la célèbre compétition de fitness mêlant course et station de musculation, qui attire les amateurs les plus motivés. Leur performance met en lumière la vitalité sportive de la région. Ces deux représentants partagent leur passion, leur rigueur et comptent bien laisser leur marque à Bordeaux dans cette épreuve exigeante.
Merci beaucoup à Kevin Mouveau de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse avec ses étudiants qui accompagnent Radio Présence tout au long de cette année radiophonique. Et puis le retour de l'actualité, ce sera tout à l'heure à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. On va partir faire une enquête policière en Vallée d'Or avec l'auteur qui a été sélectionné aujourd'hui par Un jour un livre en auteur, Philippe Loni et Diego Arabal.
Présence dans la cité mariale 96.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercase.
Un jour, un livre, un auteur, chaque semaine, c'est du plaisir pour certains, peut-être une torture pour d'autres. Un jour, un livre, un auteur, avec Philippe Noni, Diego Arabal. Alors, moi, je vous avertis de suite, c'est du bonheur.
Oui, tout à fait, oui, c'est du bonheur de se retrouver. Bonjour, Diego Arabal.
Bonjour, Philippe. Bonjour, Philippe. Et puis, au téléphone, nous avons... un troisième Philippe.
Oh là,
c'est... Alors, c'est Philippe Pourset.
C'est le Black Friday. On en achète un, on en a trois.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, bonjour. Philippe, voilà, bonjour Philippe. J'ai le plaisir de vous recevoir. Jusqu'à présent, moi, je vous ai rencontré souvent à des salons. On a souvent discuté ensemble autour d'un verre ou autour d'un repas. Mais c'est la première fois que je vous reçois sur cette antenne et j'en suis fort heureux. Je vous reçois pour votre nouveau roman qui s'appelle Du sang dans la vallée aux éditions TDO. Comme d'habitude, je vais sacrifier une petite lecture d'un texte que m'a suggéré votre roman. Vous pourrez réagir en bien ou en mal. Comme nous sommes au téléphone, ben vous pourrez pas me taper dessus, mais si vous étiez là, vous auriez pu. En tout cas, vous pourrez réagir. Lorsqu'un ami de sa compagne, Fred, est retrouvé assassiné, le capitaine François Berry ignore que ce crime inaugure une série d'homicides dont le point commun intrigant est une patte d'oie abandonnée sur les cadavres. Si l'affaire est du ressort de la gendarmerie, le major n'est pas mécontent du coup de main du capitaine. Pendant que les crimes se succèdent, un seul suspect semble être idéal, Arroyos, un marginal sanguin qui a la particularité d'avoir les mains palmées comme celles des oies. Mais le hic, c'est qu'il est désormais introuvable. Et comble du stress, un journaliste localier ne cesse d'interférer dans l'affaire pour stigmatiser les enquêteurs. Fin connaisseur des vallées pyrénéennes, Philippe Pourset poursuit avec ce polar son exploration de la vallée d'Or. L'histoire est menée de main de maître par l'auteur qui accumule les homicides et les rebondissements dans la veine d'un François Ponson du Terrail, d'un Gaston Leroux ou d'un Eugène Sue. Entraîné dans cette course contre la montre, le lecteur a beau cogiter au rythme des enquêteurs, le meurtrier a toujours un coup d'avance. Un divertissant roman à lire au coin du feu en regardant tomber la neige, mais en évitant d'aller ouvrir la porte si quelqu'un sonne. Du sang dans la vallée, Philippe Pourset, édition TDO. Alors Philippe, qu'est-ce qui vous a... Oui, pardon ?
Oui, très bien. Ouais, je suis ému par ce retour de lecture.
Vous y retrouvez?
Oui, tout à fait. Oui,
d'accord.
Oui, très bien saisi.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de poursuivre, parce que vous aviez déjà dans Rappel sanglant sur l'Arbison, votre précédent roman, vous aviez déjà fait une incursion dans cette vallée d'Or. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans cette vallée?
Cette vallée est d'abord la vallée de mon enfance. Je passais mes vacances d'hiver et d'été à Arreau. Et donc, avec mes parents, avec mon père, on allait souvent dans les coins en hauteur de cette vallée. J'ai gardé une certaine nostalgie. Alors, en fait, quand j'ai commencé à écrire du Rappel sanglant dans l'Arbison, c'était d'abord cette motivation. Alors après, les romans, les polars que j'écris dans cette vallée n'ont aucun rapport avec moi, hein, je tiens à le dire.
Ah bon, c'est... Vous ne racontez pas des épisodes de votre jeunesse?
Non, je n'ai tué personne. Et enfin, il ne faut pas que ça se sache.
Ouais. C'est ce que vous nous dites, mais on n'est pas obligé de vous croire, Philippe. C'est ce
voilà.
Que vous...
C'est l'acteur.
Alors, ce capitaine Berry, c'est un policier récurrent dans vos romans. Présentez-nous un peu ce capitaine.
C'est un capitaine un peu atypique. Il est souvent distrait. Il se trompe souvent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de fausses pistes. Il suit des pistes qui ne sont pas toujours les bonnes. Mais il a quand même le feeling, enfin il sent les choses quand même au bout du compte, il finit toujours ou pas, d'ailleurs non, c'est vraiment quelqu'un, c'est un humain, c'est pas le policier, c'est pas Maigret, c'est pas sûr de son savoir, enfin il est pas infaillible quoi.
D'accord.
Et il a un peu d'humour.
On voit qu'il a de l'humour. Est-ce que vous vous êtes appuyé sur quelqu'un que vous connaissez pour ce personnage?
Non, pas vraiment, mais c'est peut-être au cours de toutes les lectures que j'ai eues depuis, depuis ma jeunesse, j'ai peut-être croisé ce personnage par partie.
D'accord.
Ou peut-être dans la vie réelle, oui, c'est possible, oui. Mais là, c'est pas vraiment un personnage vraiment défini avant, quoi.
D'accord. Donc vous ne direz pas si c'est quelqu'un qui vous a donné l'idée de ce personnage, vous ne donnerez pas de nom.
Non, mais honnêtement, j'en ai pas. C'est un mélange de beaucoup de choses, comme souvent, c'est plusieurs rencontres, plusieurs lectures, ou plusieurs films, ou plusieurs. Ça depuis très longtemps, quoi. C'était dans ma mémoire, peut-être.
D'accord. Et c'est un policier qui n'est pas basé dans la vallée d'Arro, la vallée d'Arro étant une zone gendarmerie. Donc, il est d'où ce policier?
Alors, il est de Pau parce que s'il n'y a pas de PJ à Tarbes, et c'est si on fait appel à la PJ dans une affaire dans la vallée d'Or, c'est celle de Pau. Donc j'ai été obligé de le faire de Pau, ce qui ne m'a pas dérangé puisque je suis moi-même béarnais.
Et personne voilà. N'est parfait.
Et oui, c'est ça. Et je tiens à dire qu'il y a aussi entre le rappel sanglant où il apparaît, sanglant sur l'Arbison où il apparaît, et du sang dans la vallée dont on parle, il y a eu aussi Saltan en Béarn.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui, ouais. Non, mais c'est juste pour.
Oui, vous avez un personnage qui est revenu sur trois oui. de ces rapports, ouais. Juste pour préciser qu'effectivement la PJ elle est à Pau dans le sens où assez paradoxalement les Hautes-Pyrénées sont du ressort de la cour d'appel de Pau. Et donc c'est le ressort de la cour d'appel qui organise en fait le fonctionnement des polices judiciaires. Et donc c'est la police judiciaire de Pau qui a la charge des Hautes-Pyrénées, des Landes et bien entendu des Pyrénées-Atlantiques. Mais et bizarrement les Hautes-Pyrénées sont en Occitanie, mais du ressort judiciaire, ils sont. Alors ça, c'est une vieille histoire.
C'est une vieille histoire, et puis je pense que quand l'Occitanie a été montée, à l'époque avant, on avait l'Aquitaine et Midi-Pyrénées. Ça existait déjà d'avant les nouvelles régions.
Ça date de l'implantation des cours d'appel par Napoléon Ier en 1807. Ouais, effectivement. Et il avait fait ce découpage-là à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas de région, c'était des départements, et donc ils avaient englobé les trois départements, les Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Et donc c'est vrai que c'est toujours un peu étonnant que
on ait la PJ. Ce qui n'est pas incohérent d'un point de vue linguistique non plus.
Non, c'est pas incohérent du point de vue.
À l'époque, au début du 19e, c'était pas incohérent d'un point de vue linguistique. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui ça a un peu changé. Effectivement, ça pourrait être renouvelé, comme vous le dites, Diego Arrabal, par rapport effectivement aux nouvelles régions.
Oui. D'autant plus que historiquement. Les Hautes-Pyrénées faisaient partie du Parlement de Béarn.
Tout à fait.
Oui, Philippe.
Au départ, c'était en fait au départ, ils voulaient associer un département entre les Pyrénées-Atlantiques et le Béarn, mais ça posait un problème avec les Basques en fait. Ils voulaient pas laisser les Basques tout seuls parce qu'il y avait toujours, il y avait déjà une volonté de sécession en gros. Hein.
C'est, ouais, ouais.
C'est quoi ce que j'ai compris, c'était ça. Au départ, ça avait été envisagé qu'on réunisse un département entre les Pyrénées-Atlantiques, en fait le Béarn plutôt, et la Bigorre. En fait,
Et ça aurait laissé le Pays Basque, ou du moins les deux provinces françaises du Pays Basque, ça les aurait laissé orphelines. Ouais.
Voilà, orphelines et puis tentées à la sécession.
Oui. Alors cette histoire-là de pas de doigt est quand même assez étrange. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sans déflorer le sujet?
Ah oui, au départ c'est parce qu'il y a un soupçon sur un personnage qui a les mêmes palmées,
ouais.
Les mains et peut-être même les pieds palmés, c'est-à-dire c'est une maladie qui apparaît de temps en temps. Enfin, c'est pas une maladie, mais c'est une malformation qui apparaît de temps en temps. Alors ça là, elle m'a été inspirée par Sherlock Holmes.
Ah oui.
Eh oui. Et en fait, dans le Le chien des Baskerville.
Oui.
Où les personnages sont atteints par cette malformation. Mais enfin, c'est tout. C'est juste.
C'était un clin d'œil.
Oui,
d'accord.
Voilà, un clin d'œil avec, avec Sherlock Holmes. Mais ça n'a strictement aucun rapport avec les deux histoires.
Hein, d'accord. À part la particularité du personnage qui est le suspect numéro un et le suspect le plus évident, puisque c'est un marginal.
C'est un marginal qui est déjà impliqué dans des affaires qui correspondent un peu aux victimes.
Mm-hmm.
Donc, c'est... Et en plus, il est atteint par cette... Donc, la malformation de la main impliquait la... on pouvait faire le rapprochement avec la patte doigt. Mm-hmm. Parce que quand on regarde bien, une patte doigt et une main palmée, c'est... Bon, c'est
très... Il y a une certaine proximité. Et,
voilà.
Philippe, oui. Philippe,
j'avais une question. C'est vrai qu'au départ, quand on lit votre roman, Philippe Pourxet, la patte d'oie, ça avait aussi une signification par rapport au cagot, puisque le signe de reconnaissance des cagots, c'était également donc, le port de la patte d'oie sur leurs vêtements, comme on faisait porter donc, l'étoile jaune aux Juifs, hein, ce qui permettait de distinguer les cagots des autres. Là, cette patte d'oie, ça n'a rien à voir avec les cagots.
Alors, il faut peut-être pas, oui.
Non, mais je pense pas. Mais
disons que c'est une piste
alors,
possible.
Pour répondre, je dirais aussi historiquement, c'est aussi la patte d'oie a été aussi portée par les lépreux.
Par les lépreux, les cagots.
Pas les cagots, mais enfin les cagots aussi, mais je veux dire les vrais lépreux qui étaient atteints de la lèpre, parce qu'on disait que les cagots avaient la lèpre, mais bon.
C'est par extension de...
Au cours du temps, ils étaient plus du tout lépreux, mais ils portaient toujours la patte d'oie, oui.
Alors ça, c'est une des pistes
Oui, il y a un historien qui le met sur cette piste, mais bon, faut voir.
Oui, c'est une piste parmi d'autres.
Mais ça fait long feu, quoi. Ça fait long feu.
Il faut lire le roman.
Oui, c'est un peu compliqué, oui. D'en parler, ça.
Bon, donc on va pas vous interroger. Plus avant dessus sur cette patte d'oie pour pas trop dévoiler.
Alors, le major, c'est une petite escouade.
Oui.
Ils sont combien? Ils sont 4 ou 5 dans cette gendarmerie. C'est aussi il est devenu un ami pour Berry. Et il voit d'un bon œil que ce policier lui donne un coup de main dans cette affaire, comme c'était le cas dans une affaire précédente.
Voilà.
Vous pouvez nous parler un petit peu de ce personnage, parce qu'il est sympa, et puis il est un peu paumé lui aussi, non?
Alors le major, oui, c'est ça, oui. Le major, il apparaît dans le rappel sanglant sur l'Arbison.
Ouais.
Et en fait, il est de la brigade, de la gendarmerie d'Arro,
mm-hmm.
qui gère toute la vallée d'Or, en gros. Et en fait, lui, il est vite débordé, quoi. En fait, lui, c'est des périodes de vacances, il y a beaucoup de choses à faire, et il n'a pas beaucoup d'hommes, donc ça l'arrange bien que ce policier désigné soit qui connaît déjà donc soit désigné pour mener pour chapeauter l'enquête et parce que lui il est un peu débordé par tout cela et c'est pas vraiment un enquêteur, c'est plutôt un gestionnaire de la vallée, un bon père de famille comme on dit. Mmh. Et c'était quelqu'un un peu alors il apprécie beaucoup Berry parce que mais même s'il trouve sa méthode un peu atypique. Et il aide quand même parce qu'il lui donne beaucoup d'indices, beaucoup d'informations sur les suspects.
Mmh.
Donc c'est quand même pas lui et quelques gendarmes qui connaissent bien la région et surtout les gens qui interviennent dans cette affaire. C'est-à-dire il y a quelques personnages qu'on retrouve et il aide beaucoup dans cette enquête, mais par des renseignements, et puis surtout ils font leur travail de gendarme, c'est-à-dire quand il faut bloquer la vallée, ils bloquent la vallée, quand il faut faire des barrages ou des vérifications, c'est eux qui le font.
Mmh. Oui, mais on voit bien. Bon, c'est quand même une petite compagnie de gendarmerie qui est dans la vallée, qui est rarement confrontée à des homicides. Et donc eux, c'est beaucoup plus un travail de présence. Je veux dire le travail que fait la gendarmerie en règle générale, c'est-à-dire d'information, de présence, le travail de suivi un peu de ce qui se passe, de secours aussi. Mais pas forcément d'homicide, c'est quand même une petite vallée. A priori, les homicides sont pas fréquents, et je veux dire, eux, ils sont pas rompus à ces enquêtes et à ces techniques d'enquête, ce qui n'est pas le cas de Berry, qui lui est un policier de la PJ, quoi. Donc lui, il a une expérience, il a des méthodes de travail, même s'il est un peu tête en l'air et qu'il part sur plein de pistes et qu'il rêve beaucoup, ça ne l'empêche pas de mener son travail jusqu'au bout, quoi. Et c'est vrai que c'est une aide précieuse pour un gendarme qui, lui, est novice dans ce travail d'enquête autour d'un homicide. Parce qu'il y a quand même des choses plus importantes à faire qu'il ne sait pas forcément faire.
Oui, et puis surtout que... Il n'y a pas beaucoup de criminalité, enfin, en tout cas, d'homicide dans la Vallée d'Or. Donc,
vu la population qu'il y a en Vallée d'Or et qu'on regarde le fait qu'en France, bon, on est autour de 800-850 homicides par an, c'est clair que ça en fait peu par 10 000 habitants. Donc, dans une vallée comme la Vallée d'Or, là, vraiment, vous faites fort parce qu'il y a quand même au moins 4 ou 5 homicides. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup. Ah, les statistiques montent en flèche,
voilà, je remonte un peu le niveau.
Et on précise pour les auditeurs et les auditrices la Vallée d'Or que c'est un roman.
Oui, c'est un roman. Oui,
les habitants de la Vallée d'Or n'ont rien à craindre. Hein.
Voilà, c'est pas un document.
Donc voilà, et ben on arrive au bout de notre temps, mais Philippe, vous voulez encore poser une question à Philippe.
Alors j'avais juste une intervention, Philippe Pourxé, donc pour votre roman Du sang dans la vallée, par rapport aux éditions Terre de l'Ouest, parce qu'on dit édition TDO, et en fait quand les lecteurs et les lectrices vont venir chercher votre livre, s'ils cherchent édition TDO, en fait sur le livre c'est marqué Terre de l'Ouest. On va dire deux mots de cette maison d'édition, parce que la particularité de cette maison d'édition, déjà, c'est d'être une maison d'édition locale. Il faut quand même effectivement le rappeler. En fait, il y a deux Terres de l'Ouest. Il y a Romain Champagne qui s'occupe de Terres de l'Ouest, donc maison d'édition qui est basée dans le pays catalan, mais ils ont également donc une antenne dans le Gers.
C'est TDO, mais c'est Terre d'Occitanie.
Voilà, c'est Terre d'Occitanie. Et il y a Terre de l'Ouest de l'autre côté, en parler, c'est Benjamin Jugio, qui est sur. Donc je pense que c'est avec lui que vous devez travailler, Philippe Pourxé, ou Terre d'Occitanie. Oui. C'est lequel des deux?
Alors, je travaille avec Terre de l'Ouest, c'est-à-dire avec Benjamin Jugio. Mais en fait, parce que de toute façon, c'est pas une frontière infranchissable. Oui. Et c'est vrai que ça se trouve en Occitanie, c'est la Riaro et la Vallée d'Or, mais on l'a fait quand même.
Voilà. Et alors, je voulais en parler, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qui me semblait important à situer, c'est que les éditions Terre de l'Ouest ont une capacité de diffusion qui est extrêmement importante, puisqu'ils ont, on le voit le préciser quand même pour les auditeurs et les auditrices, bien entendu, on le trouve en librairie, mais on va aussi le trouver dans la grande distribution. Ils ont leur propre meuble de distribution, ce qui fait qu'effectivement ça marche très bien, ce qui fait que si quand les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent vont chercher votre livre, s'ils vont dans la grande distribution, qu'ils ne le cherchent pas dans les livres, donc dans les endroits traditionnels.
Mais sur le présentoir spécifique.
Mais sur le présentoir spécifique qui est en tête de gondole tout le temps. Donc ce qui permet effectivement aux éditions Terre de l'Ouest, par rapport à ses auteurs et ses autrices, de pouvoir avoir une capacité de diffusion qui est très importante. Ça, je voulais le signaler pour les éditeurs et les éditeurs et les auditrices. Donc on en profite s'ils nous écoutent pour saluer Benjamin Jugio par rapport au travail qu'il fait. Et deuxième point que je voulais dire, Philippe Pourxé, je voulais parler de la librairie Bleu et Or à Saint-Lary-Soulan, justement, puisque votre roman se déroule dans la Vallée d'Or. Et à une époque, Lucie Plessala nous disait que la meilleure vente qu'elle avait dans sa librairie, ce sont les romans de Philippe Pourxet, justement.
Oui, surtout Rappel sanglant sur l'Arbisan. Oui,
voilà, ça a été sa meilleure vente de l'année, donc il faut quand même le préciser. C'est pour ça que je voulais parler à la fois de la grande distribution, mais aussi des librairies pour le trouver. Donc,
librairie indépendante.
Voilà, librairie indépendante. Comme on est diffusé sur toute la région Midi-Pyrénées, notamment sur Toulouse, et que bientôt il va y avoir, il y aura les vacances de fin d'année, puis les vacances de février où les touristes vont venir, ils auront l'occasion de trouver votre roman à la librairie Bleu et Or à Saint-Léry-Soulanges, je le rappelle, qui est ouverte tous les jours de l'année. Voilà.
Très bien.
Eh bien, Philippe, ça, oui. Nous arrivons au bout de cette rencontre, de cette interview. Donc, vous avez quelque chose en cours de travail là sur les romans, ou vous êtes en plein dans la diffusion de celui-ci et dans la valorisation de celui-ci?
J'ai débuté un roman encore avec Berry, parce qu'on me le demande, en fait. Et puis, je me suis attaché à ce personnage. Et
il est attachant, hein. Ouais.
Et au début, bon, ça devait être
One-shot.
Ouais, voilà. et après, il y a des gens qui... C'est vrai, il y a des lecteurs qui m'ont demandé quand est-ce qu'il revient. Alors, bon, ben voilà. Et après, je l'ai fait revenir une autre fois en Béarn. Et puis, j'ai voulu revenir en Vallée d'Or.
D'accord. Et le prochain se déroulera entre les deux?
Oh, peut-être en Vallée d'Ossau, mais ça, c'est un scoop. Hein.
D'accord. Alors, on se le garde sous le coude et puis on vous reçoit lorsque votre personnage, votre roman et votre personnage sera de nouveau en pleine enquête dans la Vallée d'Ossau.
Donc, on vous dit à très bientôt, Philippe, pour que c'est ça qu'il faut qu'on comprenne.
Voilà. Très bientôt, pas tout à fait, mais très bientôt. À bientôt.
Voilà. À bientôt, ça, on peut se dire.
Allez, au revoir Philippe et merci
au
beaucoup.
Revoir.
Donc
merci.
Nous recevions Philippe Pourxet pour du sang dans la vallée aux éditions Terre de l'Ouest. C'est une histoire qui se déroule en Vallée d'Or, au cœur des Pyrénées.
Et c'est un polar, on le rappelle. Ce sont deux tiers des lectures.
Tout à fait. Allez, au revoir Philippe.
Au revoir Philippe.
Au revoir à vous deux et puis à vous trois et puis merci beaucoup.
Avec plaisir Philippe, à bientôt.
Allez, à bientôt.
Votre accueil. Merci.
Eh bien voilà Philippe Subercase, ce que l'on pouvait dire sur ce roman du sang dans la vallée aux éditions Terre de l'Ouest. On se dit à la semaine prochaine. On ne vous entend plus.
Ben voilà, on dit comme ça.
Ah, ouais. On avoir perdu Philippe Subercase.
Ouais, ouais. Ouais, parce que c'est l'heure du repas, donc. J'étais au micro-ondes et mais je suis là.
Ah, c'est le petit bruit qu'on entendait.
Ah, ouais, exactement.
Et une petite odeur, là, savoureuse.
Mais de loin, quand même, j'avais poussé le son pour vous écouter. Hein.
Oui,
ah,
oui,
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 oui. Merci à tous les deux. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci. Au revoir.
Un jour, un livre, un auteur. Philippe Noni. Philippe Subercase.
Je ne peux pas te changer. Je ne veux pas te changer. J'essaie de communiquer, de me détacher. Rien ne se perd, rien ne se crée. Et tout sera transformé. Rien n'est aussi secret. Fermez.
Bagnères de Bigorre, 88.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le pape exhorte au courage de vivre et de générer la vie. Audience générale largement consacrée ce matin au don de la vie. Nous y revenons. Veille de départ.